Nous sommes à Toulouse le 13 octobre 1761. Plus précisément, dans une boutique comme il en existe tant d'autres en ville. Cette boutique est tenue par un certain Jean Calas. À 70 ans, Jean Calas est un marchand protestant, tout ce qu'il y a de plus honnête. Il est marié à une femme nommée Anne-Rose. Il a deux enfants, Pierre et Marc-Antoine Calas, tous de la trentaine, ainsi qu'une servante, Jeanne Viguière. Il est 21h. La bonne appelle la famille pour le souper. En tout, ils sont cinq à table. Jean Calas, sa femme, ses deux enfants et un invité de passage, Monsieur Lavesse. Le dîner est assez animé, bien plus que d'habitude. Serait-ce du fait de la présence de Monsieur Lavesse ? Seulement, l'un des fils, Marc-Antoine, décide de quitter la table sans contexte précis. Son frère, Pierre, ne tarda pas à le suivre. Ce fut donc l'occasion de parler entre hommes d'affaires. Ils n'eurent même pas le temps de proposer une seule offre qu'un cri strident mêlé d'horreur arrêta net leurs négociations. Pierre venait de découvrir son frère pendu. Jean et Lavesse accourent. La servante les suit. Quand la police arrive avec les médecins, le père Jean Calas avait déjà maquillé à l'aide de la bonne le suicide de son fils en meurtre. Or, ce à quoi elle n'avait pas pensé, c'était que les premiers soupçons se porteraient sur le père. Coup de théâtre, la situation se retourne contre lui. Le chef d'accusation est le suivant. Jean Calas, avec l'aide de la bonne, aurait étranglé son fils. Quant au mobile, il serait d'ordre religieux. Le père n'aurait pas supporté la conversion de son fils au catholicisme. Moins d'un an et demi plus tard, la sentence tombe. Il sera condamné au supplice de la roue et brûlé. Et la servante, me diriez-vous ? Elle et M. Lavesse seront emprisonnés au cachot. Pourquoi cette indulgence ? Eh bien, tout simplement car ils sont tous les deux catholiques. Cet événement dramatique devait passer inaperçu, évidemment, si un certain Voltaire ne s'y était pas intéressé.
Il paraissait impossible que Jean Calas, vieillard de 68 ans, qui avait depuis longtemps les jambes enflées et faibles, eût seul étranglé et pendu un fils âgé de 28 ans, qui était d'une force au-dessus de l'ordinaire. Il fallait absolument qu'il eût été assisté dans cette exécution par sa femme, par son fils Pierre Calas, par Lavesse et par la servante. Il ne s'était pas quitté un seul moment le soir de cette fatale aventure. Mais cette supposition était encore aussi absurde que l'autre. Car comment une servante zélée catholique aurait-elle pu souffrir que les Huguenots assassinassent un jeune homme élevé par elle pour le punir d'aimer la religion de cette servante ? Comment Lavesse serait-il venu après de Bordeaux pour étrangler son ami dont il ignorait la conversion prétendue ? Comment une mère tendre aurait-elle pu mis les mains sur son fils ? Comment tous ensemble auraient-ils pu étrangler un jeune homme aussi robuste que tous, sans un combat long et violent ? Sans des cris affreux qui auraient appelé tout le voisinage, sans des coups réitérés, sans des meurtrissures, sans des habits déchirés. Suite à l'exécution de Jean Calas et à la demande de la veuve et du plus jeune fils de Jean Calas, Voltaire s'intéresse à l'affaire. Il doutait fortement qu'un homme de 68 ans et malade ait pu prendre un jeune homme de 28 ans sans attirer l'attention des habitants et de la maison. Cela n'était possible qu'à condition d'avoir des complicités dans la famille. Selon Voltaire, ces incohérences étaient la marque de règlement de compte entre les catholiques et les protestants. L'œuvre Le traité sur la tolérance est publiée par Voltaire en 1763, qui dénonce l'affaire Calas. Dans ce traité, Voltaire invite à la tolérance entre les religions et invoque le droit de pratiquer la religion de son choix. Le forme une comité d'enquête à Genève. Il gère l'argent que les particuliers et convérins protestants européens envoient pour soutenir la famille Calas. Le roi Louis XV ordonne un nouveau procès, et le Parlement de Paris est saisi de l'affaire.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Cette phrase, très importante, n'est autre qu'un article. En effet, c'est l'article 10 de la DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proclamé lors de la Révolution française le 26 août 1789. Cet article énonce une liberté fondamentale, la liberté d'opinion. Vous vous demandez sûrement, quel lien avec l'affaire d'aujourd'hui, l'affaire Calas ? Eh bien, il faut savoir que cet article a en partie été fondé suite à l'impact et aux répercussions qu'a eu l'affaire Jean Calas. Nous allons découvrir comment. Le 9 mars 1762, le Parlement de Toulouse condamne Jean Calas à être roué vif sur la roue de Coux, puis à la peine de mort par 8 voix contre 5. Il sera brûlé au bûcher sur la place après avoir été torturé, malgré le fait qu'aucune preuve et qu'aucun aveu ait démontré la culpabilité de Jean Calas. On rappelle que Toulouse est une ville farouchement catholique et à cette époque, l'édit de Nantes est révoqué. Il y a donc un climat très anti-protestant. Peu de temps après, Voltaire, alerté sur les contradictions du procès, décide de mener l'enquête. Pendant plus de 3 mois d'investigation, le philosophe travaille sans relâche pour découvrir la vérité et finit par affirmer que Jean Calas n'a pas pu assassiner son fils Marc-Antoine. C'est alors qu'en novembre 1763, Voltaire publie son Traité sur la tolérance, qui a un retentissement considérable en France. Le philosophe dénonce un procès bâclé et d'un fanatisme religieux anti-protestant. L'affaire fait du bruit et oblige le Conseil du roi à la révision du procès. Commence alors la réhabilitation de Jean Calas. En mars 1765, le 9, le Parlement de Paris examine en détail l'affaire et conclut le procès en déclarant l'innocence de Jean Calas et de sa famille. Ils sont définitivement réhabilités par la Chambre des requêtes de l'hôtel, missionnée par le roi. Le roi Louis XVI invite Madame Calas à Versailles et accorde à elle et à sa famille une pension de 36 000 livres, somme considérable à l'époque, en dédommagement du jugement catastrophique du Parlement de Toulouse. Pour conclure, l'affaire Calas n'eut aucune conséquence immédiate sur les lois anti-protestantes. Ce n'est qu'en 1787 que Louis XVI se décida à signer l'édit de Versailles, édit de tolérance restituant aux protestants uniquement leur état civil. 2 ans plus tard, la Révolution bouleverse l'ancien ordre. La liberté de conscience, article 10, et d'opinion, article 11, sont proclamées dans la DDHC, article influencé indirectement par la réhabilitation et les retentissements de l'affaire Calas.